Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Cette femme vomissant sa faim sur le monde. Cette femme mélancolique, oubliée d'avant la mémoire. Cette envolée jaune jaillissant comme les mélodies rageuses de Coltrane. Fesses remuant comme des feuilles de palmier.
Like palm trees.
Cette femme d'Alabama enrobée de miel qui tambourine des sourires bleu-noir.
Blue-black.
Cette
miles.
Femme jaune portant sous ses seins des plaisirs sans parole. Cette
This
femme
woman
dont le corps tisse des motifs du désert.
Desert patterns.
Cette femme détrempée à force d'errer, réveillant la beauté des forêts et des vents, te confie des secrets.
Is telling you secrets.
Rassemble tes odeurs et écoute quand elle chante l'empreinte de mémoire.
Memory.
Il n'y a pas
no
de place pour une douce
for
femme
a soft,
noire.
Black woman.
Pas de sourire assez vert
no
ou de mots d'été assez chaud
green enough
pour m'autoriser à grandir. Et dans ma tête,
and
je vois
head,
mon histoire,
history,
me tenant debout comme une enfant timide.
Child,
et je chante des berceuses
lullabies,
comme je chevauche
as
mon
I
passé.
Ride my past on horseback.
Goûtant la soif des tribus de jadis, écoutant l'ancienne femme
ancient
noire
black
en moi chanter.
Woman.
Hey, 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 ya,
hey,
ya,
ya, ya, ya.
Hey, 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 hey,
ya, 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 ya.
Comme un trait paresseux sous le soleil.
And I dance.
Et je danse ma création et l'assemblée de mes grand-mères. De mes os comme de grands oiseaux
from
en bois ouvrent leurs ailes, tandis que leur
long
rire est chassié et tire la nuit.
Night.
Et je goûte les saisons
taste
de ma naissance.
Seasons of
mangue,
my birth.
Papaye,
mangoes, papayas,
bois mêlé de coco
coconut
de femme. Traque les anciens grands-pères sirotant de fiers après-midi. Marche une chanson autour de ma taille.
Tremble,
tremble
like
comme un enfant nouveau-né, troublé
child,
par de nouvelles respirations.
New breaths,
et mon chant
and
devient le seul son d'une femme bleue-noire
blue,
magique.
Black,
elle marche,
magical woman,
l'utérus mûr.
Walking,
elle marche, charivari des matins.
Walking,
elle marche, entreprenant un pèlerinage vers elle-même. Elle marche.
Walking.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons trois invités, à commencer par Milan Stankov, bonjour.
Bonjour.
Ensuite, nous avons Anna Blum, bonjour.
Bonjour.
Et Mandoline Wintersley.
Bonjour.
Bonjour. Et donc, tous les trois, vous êtes passionnés de poésie.
Oui.
Et ce
oui,
qui vous amène à cette lecture, et il y en aura d'autres pendant l'émission. Avant tout, on peut peut-être présenter ce texte. Il est de qui?
Et donc, le texte qu'on a lu est de Sonia Sanchez, qui est une activiste afro-américaine. Bon, voilà, elle est activiste dans le sens où elle a fait partie du Black Art Movement aux États-Unis. Et donc, ses poèmes ne sont pas traduits en français. Donc, celui que je vous ai lu, ben, on l'a traduit ici. Enfin, je l'ai traduit moi-même. Et donc, ça s'appelle, le poème s'appelle Present. Présent, voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, mais... Et donc, on a choisi de le lire avec l'original de temps en temps en éclairage dans le fond, parce que la poésie, c'est évidemment, c'est des mots, mais il y a aussi toute la musicalité, et c'est ce qui nous intéresse, et donc d'entendre aussi les poèmes dits dans des langues différentes. La musicalité, chaque langue a sa musicalité, et c'est, ouais, c'est pour ça qu'on l'a lu. en deux langues en même temps.
Ce texte, Mandoline, tu peux nous en parler, puisque étant américaine, tu connais certainement cette auteure, cette poétesse.
Non, en fait, je l'ai découverte grâce à Anna. À l'occasion d'une rencontre, Anna nous a conviés à venir partager une improvisation en mouvement, musique, poésie. Et c'était quelque chose de plutôt amical à la base comme rencontre. Et à cette occasion, elle m'a demandé de lire la version américaine et j'ai découvert cette poète et ce poème à cette occasion. Je ne connaissais pas du tout son travail.
Cette poétesse, elle est de quelle époque ?
Elle vit toujours, hein, donc elle doit avoir 80 ans maintenant, donc elle est déjà assez âgée, mais c'est une femme formidable parce qu'elle fait des sortes de stand-up poétiques. Où elle est seule en scène, voilà, puis c'est ça le stand-up, et où les gens interviennent, la soutiennent, etc. C'est formidable, on peut aller voir sur YouTube, où elle lit simplement ses poèmes, mais elle les chante, et parfois elle est accompagnée aussi par des musiciens jazz ou blues, donc c'est vraiment très très chouette, quoi.
Anna Blum, je vous ai en correspondance par rapport à vos propositions autour de la poésie. Et puis là, donc, vous nous proposez cette rencontre avec Milan et Mandoline autour de la poésie dans cette émission. Qu'est-ce qui motive ce rapprochement ou quel est le fil qui vous tient tous ?
Alors, pour moi, mais les autres s'exprimeront pour eux, mais pour moi, l'amour des mots, l'amour de la musique, l'amour du mouvement, du corps en mouvement, ben, ça tient en un mot, c'est l'émotion. C'est les émotions et voilà, c'est une façon d'exprimer ces émotions profondes, qu'elles soient lumineuses ou sombres. Je pense que c'est ce qui relie ces trois expressions artistiques, probablement toutes les expressions artistiques d'ailleurs. On avait à plusieurs en fait l'envie d'expérimenter ce que ça donne que l'un vient nourrir l'autre et pas nécessairement l'un prend le pouvoir sur l'autre. Donc l'idée c'était vraiment de comment dans un espace donné, un moment donné, on va utiliser ces trois formes artistiques et qu'elles vont chacune évoluer. À un moment donné, il n'y aura peut-être que de la musique. À un moment donné, il n'y aura peut-être que du mouvement, que de la parole. Mais l'idée, c'était vraiment que chacune des expressions vienne nourrir l'autre. Voilà.
C'est un peu ce qui vous tient, Milan ?
Oui. Après, voilà, j'ai eu du mal à répondre à votre question. Est-ce qu'on est passionné par la poésie ? Donc oui, je suis passionné, mais c'est par période. Et du coup, là, c'était une période qui est initiée par Anna. Du coup, il y avait cette invitation, du coup, qui a, pour moi, nourri... j'ai regardé ce que j'ai comme livre dans ma bibliothèque. Et puis après, pour moi, la poésie, aussi bien que la musique et la danse, que je ne pratique pas d'une manière régulière, on va dire, mais c'est vraiment ponctuel. Et puis des fois, c'est à la maison, chez soi, il suffit juste d'entendre une chanson à la radio, et puis c'est parti pour une improvisation danse, si on peut dire. La poésie, c'est un peu pareil. Et puis, la poésie est partout. Du coup, il y a aussi les chansons qui, quand elles sont lues, c'est de la poésie. Dans les livres aussi pour enfants, parce que j'ai un enfant. Et du coup, quand on lit les livres, souvent, les livres sont faits... ça rime, en tout cas, c'est fait en rime. Et puis, des fois, pas du tout. D'ailleurs, la poésie, c'est pas forcément les poèmes... on ne trouve pas toujours les mots qui riment, ce n'est pas forcément important. Donc voilà, il y a plein de choses, on peut dire que c'est partout et que voilà, ça reste un peu endormi et puis des fois il y a quelque chose qui réveille l'envie de lire un poème. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai cherché, j'ai trouvé le livre de Jacques Prévert, Parole, dans ma bibliothèque, que j'ai acheté dans une brocante il y a longtemps. Et d'ailleurs, il est vieux, hein, je pense qu'il date des années 70 ou 80. Ouais. Voilà. Du coup, voilà, c'est un livre que j'aime bien ouvrir des fois et lire quelques... Enfin, c'est pas que des poèmes, hein, c'est quelques textes. Et puis j'ai pas tout lu, hein, mais voilà, il est là. Des fois, il reste tout seul pendant plusieurs années, mais des fois, voilà, je l'ouvre souvent.
Et Mandoline, pareil, alors, qu'est-ce qui vous anime pour la poésie?
Alors, ma relation avec la poésie, c'est vraiment depuis l'enfance. Et j'avais un accès au langage assez timide, je dirais, et j'étais plutôt muette. Et j'ai eu la chance d'un papa qui m'a fait découvrir la poésie quand j'étais toute petite et qui m'a donné un accès au langage qui me correspondait. Et à travers la poésie, une manière de trouver des mots qui étaient plus proches de ma manière de vivre le monde que le langage social auquel j'avais moins accès quand j'étais enfant. Et puis c'est resté. C'est resté un monde une manière de rencontrer le monde par le langage qui est plus près de ma manière de vivre le monde que la parole quotidienne, je dirais. Après, voilà, j'ai appris à parler de manière sociale et quotidienne, donc là, voilà, je m'en sors au quotidien sans parler en poème. Mais il y a quelque chose de... À travers la poésie, il y a un langage qui a pas de détour, qui va toucher directement la matière du monde. Et dans le langage social, je trouve qu'il y a beaucoup de couches et de voiles dans lesquelles je me perds. Et donc j'aime partager la poésie dans des espaces intimes, dans des espaces aussi de pratique en lien avec le mouvement, avec la danse, où dans, on change d'état. Et il y a certains états où on est... des états de présence et de rapport à la matière, des rapports au temps, où la poésie donne un accès direct.
Voilà. Vous parlez de strates ou de voiles sur le langage courant. Vous pourriez peut-être préciser quel type de voile vous trouvez ?
Oh, c'est à tellement de niveaux. Quand j'entends quelqu'un parler, quand je m'entends parler, j'entends ce que je dis, j'entends ce que j'essaye de dire, j'entends tous les sous-textes de « s'il vous plaît, écoutez-moi, soyez intéressés par ce que je dis ». Tous ces sous-textes, on les entend. Toutes les choses convenues, les choses qu'on se dit, les questions qu'on se pose sans vraiment s'intéresser... Et c'est nécessaire. Socialement, je suis pas sûre que j'ai envie de parler, qu'on parle en poème tout le temps. L'étude de la poésie me permet socialement de parler de manière un peu plus concrète et un peu plus directe, avec un peu moins de détours et de spirales convenues.
Milan Stankov, votre accès à la poésie est arrivé très tôt aussi?
Et bah, là, je viens de me rendre compte, j'écoute Mandoline et du coup, je regarde le livre que j'ai choisi, qui est du coup en serbo-croate, enfin, d'un poète yougoslave, on va dire. Et je me suis rappelé là qu'en fait, quand j'étais à l'école, petit, du coup, je pense que j'avais 8-9 ans, y avait une initiative qui venait de mon instit, j'imagine, et du coup j'ai participé à une lecture avec une mise en scène de ce poète, parce que voilà, il a un langage qui est assez simple, langage d'écriture assez simple et direct, qui a pu permettre aux enfants de se l'approprier. Donc je dirais que oui, assez tôt. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, par des livres pour enfants qui sont souvent des petits poèmes simples, je pense que j'ai pu rencontrer la poésie de cette manière-là. Ouais.
Comme Prévert, précédemment cité.
Et comme Prévert aussi, voilà.
Anna, la poésie, pour vous, vous êtes tombée dedans, petite ?
Ben, en fait, petite, je vivais en pays flamand. Et je pense que je dois me souvenir de l'un ou l'autre, l'une ou l'autre phrase ou chansonnette en flamand. Donc, mais tomber dedans, non. Moi, je suis tombée dans la nature, je pense. Et la nature, pour moi, c'est l'essence et l'essence même de la poésie. Et j'étais dans les dunes, j'étais dans les arbres, je regardais les lapins, j'étais et je pense que c'est ça qui m'a donné le goût de la poésie, parce qu'il y a quelque chose de transcendantal. On est quelque part, on peut voir, on peut goûter, on peut sentir, on peut humer, mais ça dit plus que ce qu'on voit et ce qu'on sent et ce qu'on goûte. Donc je pense que c'est ça la poésie.
D'ailleurs, vous pratiquez vous-même, tous trois, l'écriture de la poésie ?
Moi, je l'ai beaucoup pratiquée jusqu'à... c'est-à-dire, de enfant, dès que j'ai appris à écrire, jusqu'à, je ne sais pas, 25 ans. J'ai beaucoup, beaucoup écrit et traduit des poèmes. Donc, je suis bilingue et je traduisais du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français. Et je pensais faire carrière de ça, je pensais être poète. Et j'ai réalisé que j'ai développé un travail autour de la danse et du mouvement, et qu'être poète, c'est du temps plein, et que je n'avais pas la... je le faisais un petit peu en... pas à la mesure de l'exigence et de l'amour que j'ai pour ça, et que du coup, j'ai arrêté. Et je préfère ne pas écrire que d'écrire n'importe comment. Mais j'ai l'impression que ça reviendra. Voilà, ça sera plus tard, quand j'aurai plus de temps...
Alors moi, j'ai, quand j'étais enfant, mais c'était plutôt des devoirs d'école entre guillemets. Et puis après, j'en ai retrouvé quelques-uns d'ailleurs une fois adulte. C'était assez drôle de les relire. Et puis après, je me souviens que il y a 5-10 ans, quand slam était à la mode, j'ai été à 2-3 soirées slam où j'ai pu une fois ou deux fois sortir sur scène avec un texte que j'ai écrit sur place. Et c'était assez intéressant, mais je ne l'ai pas pratiqué, ça s'est passé une ou deux fois. Mais c'était assez intéressant aussi d'avoir cette déclencheur du coup de cette envie de produire quelque chose et de le lire aux gens, enfin, assez directement.
Et Anna, non, vous n'écrivez pas. Mais vous aimez écrire quand même, non ?
Ah, écrire, oui, j'ai un très très grand amour des mots. Et quand j'écris pas pendant un certain temps, ben, je me sens pas bien en fait. Et puis tout à coup, je me dis, ah mais ça fait X semaines que j'ai rien écrit. Et donc je m'y remets. Parce que j'ai vraiment ce besoin-là, mais par contre la poésie, non, c'est trop fort, c'est trop grand pour moi, c'est trop exigeant, c'est trop profond. Voilà, je préfère lire et entendre dire des poésies, voilà, que d'en écrire moi-même.
Est-ce que la poésie ne peut être matérielle que par son écriture sur un papier ?
Non, pour moi, non. Non, bien sûr, non. À la poésie, c'est aussi une façon de regarder le monde, je pense. Et, là, tout le monde est acteur et tout le monde est poète. Sa façon de regarder le monde, de voir tout à coup quelque chose qui est magnifique, mais c'est ce dont parlent les poètes, en fait. Et on est tous poètes de cette façon-là, en tout cas. Voilà, je pense vraiment.
J'ai l'impression que c'est une pratique aussi, que ce rapport au monde poétique s'apprend aussi, s'aiguise, se pratique, peut se découvrir, peut se transmettre. C'est pas simplement un don du ciel, ou certaines personnes l'ont et pas d'autres. Et en fait, j'ai fait des études aux États-Unis où il y a vraiment un apprentissage de l'écriture poétique et que je ne retrouve pas en France, au moins. Ou en France, il y a un petit peu plus l'idée d'un don, d'une inspiration qui arriverait. Et je crois que les deux sont vrais. On peut être habité ou mu par quelque chose. Et il y a une technique, il y a aussi une manière de voir, apprendre à écouter, apprendre à raisonner avec du vide. Des choses comme ça se transmet.
La sonorité des mots aussi a de l'importance pour chacune des langues, comme l'anglais ou serbe, c'est ça?
Voilà, ce qu'on appelait le serbo-croate, ouais, serbe. En tout cas, moi, je viens d'un endroit, du coup, où on parle le serbe. Et je viens, du coup, du nord de pays, enfin, de Serbie, où on parle aussi... Enfin, assez lentement, on va dire, avec une autre sonorité que dans le sud, on va dire. Et ce qui est d'ailleurs assez drôle aussi, c'est quand je parle en serbe et quand je parle en français, c'est pas du tout la même intonation. Et d'ailleurs, c'est d'autres gens aussi qui l'ont remarqué. C'est assez intéressant. Du coup, alors là, je peux peut-être lire un poème en serbe. Alors je vais peut-être dire, du coup ça s'appelle, du coup c'est de l'auteur qui s'appelle Miroslav Antić, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le poème s'appelle le poème sans retour, Nepovratna pesma. Et du coup ça, c'est un livre où on dirait, c'est pas très clair, mais on dirait que c'est les parents qui s'adressent aux enfants. Et puis des fois aussi les enfants qui s'adressent aux parents, même si c'est pas très très clair. Dans celui-là, je vais traduire deux extraits. Donc, on parle d'aller toujours de l'avant. On dit, tu n'es pas fait pour être une racine, le monde entier ouvert pour toi. Ne povratna pesma. Nikad nemoj da se vraćaš. Ako stvarno u svet krećeš, nemoj da mi nešto petljaš, nemoj da mi hoćeš, nećeš. Opasno je kao munja, opasno je kao metak, kad u tebi večno kunja i šunja se tvoj početak. Svud se staje, svud se može, samo ne u iste kože. Ne gužvaj se, ne saplići u sobstveni rep i trag. Šta ti znači staro sunce, stare staze, stari prag? To je ono za čim može da se pati. To je ono čemu možeš srce dati, ali ako se ikad vratiš, moraš znati, tu ćeš stati i ostati. Očima se u svet trči, glavom kopa mlako veče. Od reke se čovek uči ka morima da poteče. Od zvezde se čovek uči da zapara nebo sjajem i od druma da se muči i vijuga za beskrajem. Opasno je kao zmija, opasno je kao metak, kad u tebi večno klija, i ćarlija tvoj početak. Nek ti čelo zore ore. Ti za koren nisi stvoren, ceo ti je svet otvoren. Pa daj, budi takvo čudo, što ne ume ništa malo, već kad kreneš, kreni ludo, ustreptalo, radoznalo. Ko zna kud ćeš, ko zna zašto, ko zna šta te tamo čeka. Sve su želje uvek belje, kad namignu izdaleka. Pa ako se i pozlatiš, il sve teško, gorko platiš. Uvek idi samo napred. Nikad nemoj da se vratiš.
Merci Milan. On peut peut-être avoir une idée de la teneur de ce qui est cité dans ce texte.
Voilà, du coup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Du coup, on parle, si c'est un parent qui s'adresse à son enfant, c'est un peu le message d'aller toujours de l'avant. Du coup, un extrait, c'est « Tu n'es pas fait pour être une racine, le monde entier est ouvert pour toi. » Ça explique assez, assez bien, du coup.
Mandoline Whittlesey, il y a des auteurs qui vous marquent autant.
De nombreux poètes. René Char a eu une place énorme pendant des années. J'étais obsédée par René Char et mon mémoire à la fac, c'était traduire René Char en anglais. Donc j'ai passé 3 ans à traduire ses poèmes. Ce processus de la traduction et la question de la traduction me passionne, me bouleverse. C'est un processus très très corporel, donc ça rejoint la danse. J'ai l'impression que pour traduire un poème, faut l'avaler, le digérer et puis le rendre dans une autre forme. Guy Vic, poète breton, j'aime beaucoup. Je reviens Ted Hughes, c'est un poète anglais, j'ai amené qui a un rapport au végétal, à l'animal et aux espaces de l'Angleterre un peu vert qu'on peut imaginer, mais absolument c'est trash. C'est des poètes très dark, donc ils tissent un univers semi-sauvage avec des états intérieurs très très humains et urbains.
C'est de quelle époque, Ted Hughes ?
XXe siècle.
D'accord.
Ouais. Je peux en lire un...
Un court extrait ? Ouais, un extrait, hein. Ouais. Il n'y a pas de limite. Hein.
J'en prends un pour ça. Ouais. « How water began to play », comment l'eau a commencé à jouer. « Water wanted to live. It went to the sun. It came weeping back. » Water wanted to live. It went to the trees, they burned, it came weeping back. They rotted, it came weeping back. Water wanted to live. It went to the flowers, they crumpled, it came weeping back. It wanted to live. It went to the womb, it met blood, it came weeping back. It went to the womb, it met knife, it came weeping back. It went to the womb, it met maggot and rottenness, it came weeping back, it wanted to die. It went to time, it went through the stone door, it came weeping back. It went searching through all space for nothingness, it came weeping back, it wanted to die. Till it had no weeping left, it lay at the bottom of all things. Utterly worn out, utterly clear.
À l'exemple de René Char, qui faisait partie du mouvement surréaliste, vous aviez donc une traduction à faire d'un de ses ouvrages, avec peut-être amener une compréhension de votre culture américaine pour percevoir, ou celle de l'anglais, pour percevoir un peu les sens cachés de ces textes.
À l'époque, j'étais vraiment naïve, c'est-à-dire que j'ai plongé dans René Char, dans les textes eux-mêmes, sans du tout me soucier du contexte historique ou culturel dans lequel il écrivait. Donc je me suis peu souciée de faire connaître René Char, l'homme, le français, le militant, on pourrait dire. Et j'étais dans les mots, absolument dans les mots, et j'ai souffert de... Je parlais avec Anna de ça tout à l'heure. Dans la mesure où c'est corporel, de devoir quitter le français pour aller dans l'anglais. Il y a quelque chose à... Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire dans la traduction qui... qui est assez profond. Et après 3 ans de traduction, je me disais, si les anglophones veulent lire René Char, ils n'ont qu'à apprendre le français.
Mais quel est ce deuil, quelle est cette disparition qui amène ce deuil dans le processus de la traduction? Le sens, les mots, la musicalité?
La précision. Il y a quelque chose d'absolu dans le choix d'un mot, dans une langue. C'est une pointe d'aiguille, ce choix-là. Et pour passer dans une autre langue, on change d'objet, on se rapproche. Donc une traduction, c'est un vecteur qui tend vers le poème d'origine, mais on fait le deuil du spécifique.
Anna, pareil, vous vous aventurez dans la littérature ou la poésie étrangère, en quelque sorte, ou vous restez plutôt proche vous citiez tout à l'heure un poème d'un Italien, par exemple. Donc ma question était peut-être...
peut-être... Donc, moi, j'adore, en fait, j'adore la poésie lue dans d'autres langues, comme j'adore aussi le français... parler par des étrangers, c'est-à-dire où il y a tout à coup une petite musicalité, autre chose, c'est une valeur ajoutée quelque part au poème. Et voilà, enfin, je ne dis pas ça parce que les Français ne savent pas lire des poèmes, c'est pas ça du tout. C'est plutôt que l'accent étranger amène une autre dimension dans la poésie, mais même dans le parler quotidien, comme disait Mandoline tout à l'heure. J'adore entendre parler le français par des étrangers. Et non, mais bien sûr, moi, j'aime beaucoup, beaucoup lire des poèmes dans d'autres langues. Parfois, je ne les comprends pas du tout, mais en les disant à haute voix, je découvre quelque chose. Au-delà du sens du mot, bien sûr, c'est toujours bien d'avoir... Après, on va voir la signification exacte ou la tendance, enfin, plus ou moins, quoi. C'est nécessaire, mais j'adore découvrir des poèmes, mais aussi le chant, par exemple, amène cette possibilité-là aussi. On entend de la poésie chantée dans d'autres langues et... Il n'y a rien à faire, c'est fabuleux, c'est infini, c'est des découvertes infinies. Bon, moi, je suis très, très fan d'Atahualpa Yupanqui, par exemple, qui est un Quechua, qui était un chanteur, poète Quechua. Et peut-être que je vous lis juste le début d'un de ses poèmes qu'il dédie à Pablo Neruda. Voilà, en espagnol. Et c'est, donc, ça s'appelle Canción para Pablo Neruda. Pablo nuestro, que estás en tu Chile, viento en el viento, cósmica voz de caracol antiguo. Nosotros te decimos gracias por la ternura que nos diste, por las golondrinas que vuelan con tus versos de rama a rama, de barca a barca, de silencio a silencio.
La place de la poésie dans la culture de chacun de vous ou de son pays, quelle est-elle? Milan, par exemple, quelle est la place de la poésie en...
Alors du coup, la Yougoslavie, c'est un pays qui n'existe plus,
oui,
dans lequel je suis né. Et la langue, du coup, en France, on l'appelait le serbo-croate. Mais en vrai, c'était deux langues différentes ou deux dialectes d'une langue différente. Ça dépend si on regarde le côté linguistique ou politique de la chose. Et puis aussi, le bosniaque, on va dire, le monténégrin. Donc ça, ce sont des langues qui sont très, très proches. Et donc moi, voilà, je viens, enfin, j'ai déjà un tiers de moi, du coup il y a plusieurs cultures qui se superposent par mon père, par ma mère, par le pays où j'ai grandi. Et du coup, pour répondre à ta question, dans mon pays ou mes pays, on va dire. La poésie, elle est très présente. Elle est très présente. Après, voilà, on l'oublie souvent, je dirais. Après, ça dépend aussi des milieux dans lesquels on évolue, mais ça dépend aussi de, on va dire, de la situation dans laquelle le pays se trouve, donc économique, politique. Où des fois, il y a d'autres choses qui arrivent avant la poésie ou la manière poétique de voir le monde, on va dire, mais qui est quand même très, très importante. Et donc, ouais, je ne réponds pas très clairement à ta question, mais voilà, la réponse, moi non plus, ouais, je ne l'ai pas, mais voilà.
Ta réponse m'amène cette question. Est-ce que tu reconnais les États qui sont actuellement... de l'ancienne Yougoslavie.
Est-ce que je les reconnais comment ?
Est-ce que tu les reconnais en tant que pays ou alors il y a une réticence ou une nostalgie d'un pays comme la Yougoslavie ?
Alors, oui, bien sûr que je les reconnais, en sachant que voilà, cette histoire d'État et de frontières, ça reste des fois souvent inutile et puis souvent assez vague. Parce que des fois, quand on coupe les frontières, des fois, il y a des gens qui restent de l'un côté et de l'autre. Des gens, du coup, qui ont la même culture, la langue, ou différente, ou très proche, ou qui se mélangent aussi, voilà, qui s'entremêlent, hein, comme c'est souvent le cas. Et la deuxième partie de ta question, c'était, je les reconnais, et la nostalgie, un peu comme dans le poème que je viens de lire, du coup, une fois qu'on se met en marche, après la nostalgie, on va dire que ouais, enfin, elle est là, mais on se noie pas dedans. En tout cas, c'est mon cas. Et encore une fois, ce que j'ai dit par rapport à cette histoire de d'identité. Plus que culture, du coup, on est tous habités par des identités différentes. Après, c'est des fois, on l'oublie ou on ne veut pas le voir. Puis des fois, on cultive l'une plus que l'autre. Mais du coup, pour moi, c'est le cas. Déjà, avant de venir en France, j'étais déjà habité par plusieurs identités. En tout cas, à l'intérieur de moi, il y a plusieurs identités.
Mandoline, pareil, hein, pour toi, il y a certainement des grands poètes que tu as découverts aux États-Unis.
Oui,
et en même temps méconnus, par exemple, en France.
Ah oui, la plupart des poètes américains sont inconnus, complètement inconnus en France. Il y en a des centaines et des centaines, sans des milliers de poètes contemporains. Et je réfléchissais à la question en même temps. C'est pas évident de répondre. J'ai l'impression que la nature même de la langue, sans même parler de poésie, elle est tellement différente. Ce qu'elle véhicule est différent. Ce que la langue fait à la culture est ailleurs déjà. Donc ensuite, passer à la poésie de là, de toute façon, on est ailleurs. Et dans l'américain, le langage est plus simple. Plus informel. Quand je fais une traduction de l'anglais vers le français, en général, c'est beaucoup plus long. J'ai besoin de beaucoup plus de mots en français pour dire la même chose. Pareil, voilà, si j'essaie de dire la même chose en anglais, je dirais une phrase au lieu d'en dire deux. Donc, déjà de là, ce qui fait poésie, poème, est plus, souvent plus simple, plus informel, un accès plus direct à l'image. Et à la sensation véhiculée par le poème, ce qui fait que c'est plus accessible plus largement aussi. Et qu'en français, le foisonnement de mots pour créer l'image, le côté plus formel du langage, ou le potentiel plus formel du langage, fait que ce qui fait poème peut aussi devenir plus facilement plus inaccessible, où il y a besoin d'un petit effort en plus pour rentrer dans le poème. Et du coup, j'ai l'impression que la poésie, elle est un peu plus extérieure au quotidien des gens en France. On voulait partager un poème avec Anna qu'on aime beaucoup de lire. Peut-être d'abord la traduction en français et ensuite l'original anglais. De lire le français. La traduction d'abord permet aux gens de mieux comprendre l'anglais.
Anna, quelle est la place de la poésie en Belgique ?
En Belgique, la place de la poésie, c'est nulle part, je dirais. Nulle part. À l'école, on est bien obligé, je pense, dans les programmes, de voir certains poètes dans le cadre du français, littérature, etc. Mais je pense que ça devrait être, enfin, ça pourrait être une pratique, une incitation à pratiquer la poésie, donc à lire et à écrire et à dire de la poésie. C'est hygiénique, enfin, je veux dire, c'est une hygiène mentale. C'est franchement très. C'est quelque chose de tellement essentiel, de tellement, tellement important. Donc, la place qu'a la poésie, je trouve, dans l'enseignement, c'est pas la bonne place, parce que c'est déjà dans une petite rubrique, une sous-rubrique. Et. C'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. Il faut vraiment l'aborder en donnant le goût de lire, de dire et d'écrire. Et là, il y a vraiment du travail à faire.
Milan, tu proposes donc un texte de Prévert, d'abord en français et ensuite en serbo-croate ?
Oui, ou en parallèle, comme vous avez fait tout à l'heure. Enfin, est-ce qu'Anna ou Mandoline, tu as envie de lire ? Za tebe, ljubavi moja.
Pour toi, mon amour.
Išao sam na trg ptica i kupio sam ptice za tebe, ljubavi moja. Išao sam na trg ptica. Išao sam na trg cveća i kupio sam cveće za tebe, ljubavi moja.
Pour toi, mon amour.
Išao sam na trg gvožđa i kupio sam okove. Teške okove, za tebe, ljubavi moja.
Pour toi, mon amour. Et puis je suis allée au marché, aux esclaves, et je t'ai cherché.
Et je t'ai cherché.
Mais je ne t'ai pas trouvé.
A zatim sam išao na trg robova i tražio tebe, ali te nisam našao, ljubavi moja.
Mon amour.
Merci. Comment vous vous retrouvez parfois entre passionnés de poésie vous animez des moments entre vous?
Non, pas du tout. mais bon, pas voilà, encore. L'improvisation qu'on a faite ensemble, ça donne envie, en tout cas, de repratiquer ce genre de choses. Et en tout cas, voilà, on ne sait pas, grand point d'interrogation, mais le goût et le désir est là. Voilà.
Et il y aura peut-être une prochaine fois à vous entendre lors d'une soirée ou un événement, peut-être.
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 À créer.
À créer.
À créer.
Eh bien, ça sera peut-être l'occasion à un moment donné de vous réentendre à ce sujet. Et puis, donc, on termine cette émission. Donc, je remercie Milan Stankoff, ensuite Mandoline Wintersley et Anna Blum. Et pour finir, donc, une lecture d'un texte de...
Donc, c'est un poème de Mary Oliver, qui est une poétesse américaine décédée récemment. Et donc, c'est vraiment... elle est considérée comme étant un trésor national. Tous ses poèmes, enfin, de nombreux de ses poèmes sont connus de tout le monde. Et, enfin, de beaucoup de gens. Et donc, une traduction déjà en français et ensuite l'original en anglais.
Tu n'as pas à être bon. Tu n'as pas à marcher à genoux sur des centaines de kilomètres à te repentir. Il te suffit simplement de laisser le doux animal de ton corps aimer ce qu'il aime. Parle-moi du désespoir, du tien, et je te parlerai du mien. Pendant ce temps, le monde suit son cours. Pendant ce temps, le soleil et les perles claires de pluie traverse les paysages, par-dessus les prairies et les arbres profonds, les montagnes et les rivières. Pendant ce temps, les oies sauvages, haut dans le ciel, bleu et pur, rentrent de nouveau au pays. Qui que tu sois, quelle que soit ta solitude, le monde s'offre à ton imagination, t'interpelle comme la voix des voix des oies sauvages, rauques et grisantes, annonçant encore et encore ta place dans la famille des choses.
Wild geese, you do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert, repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting, over and over announcing your place in the family of things.
Anna Blum, il y a moyen de vous entendre aussi sur Internet?
Oui, donc sur Internet, c'est blog de Anna Blum, blog de Anna Blum en un seul mot.
Et pour ce qui est de mandoline ou de Milan, vous avez des choses que vous diffusez ou que vous propagez sur Internet?
Oui, mais d'une autre nature, pas forcément liée à la poésie ou de manière un peu parallèle. Et c'est sous mon nom.